Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, dans lequel nous allons rétablir des vérités concernant la question juive sur Vichy, en nous appuyant sur des historiens institutionnels. Je ne suis pas naïf, je sais très bien que mes contradicteurs m'attendent au tournant, je dirais, au procès des sources. Voilà. Je pense que nombre d'entre vous vont sauter de leur chaise. Cette émission sera dense et je vous invite à ne pas hésiter à la voir plusieurs fois. Comme vous le savez, avant de commencer l'émission, nous faisons quelques petites annonces habituelles. Tout d'abord, si vous cherchez un bon bouquin, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française, 202 rue Le Courbe. Voilà, vous pouvez aussi aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin si vous cherchez un bon bouquin catholique et ou contre-révolutionnaire. Actuellement, c'est important, chers amis, le collectif Saint-Robert-Bellarmin a réédité, réimprimé un missel. Très peu d'éditeurs font ça de nos jours. Le missel de Don Lefèvre. Voilà. Ce sont les rubriques de Saint-Pidis, mais je crois de mémoire que c'est une annexe avec la réforme de Pidouze dedans. Donc c'est un missel d'excellente qualité. Une première édition a déjà été faite. Elle est donc de 200 exemplaires, je crois. Ils ont été vendus en 24 heures, 24-48 heures. L'éclair aussi avait fait une pub, à juste titre, pour le missel. Mais si vous cherchez un bon missel, n'hésitez pas. Le CSRB est en train de le réimprimer. Voilà. Il n'y en aura pas pour tout le monde, je pense. Voilà. Donc, vous pouvez commander. On me pose souvent la question, d'ailleurs, de où acheter des missels. Et bah, vous pouvez justement l'acheter sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin. N'hésitez pas à soutenir la cause. Et en plus, en l'espèce, ça lève votre âme. Que demande le peuple ? Que demande le peuple ? Les vrais, chers amis, vous le savez, peuvent aussi aller sur le site des éditions L'Estocade. Un certain nombre de nouveaux ouvrages étaient en rupture de stock. Ils sont petit à petit réimprimés, et notamment celui-ci, L'équivoque vaincu par le magistère, dans lequel je démontre l'invalidité du rite de consécration épiscopale promulgué par le faux pape Montini Paul VI dans son document qui s'appelle de mémoire Pontificalis Romani. Ou Romani Pontificalis, pardonnez-moi, j'ai oublié. Voilà. Et puis je réfute, bien entendu, tous les sophismes des différents tradis qui ont tenté de sauver ce rite qui est un attentat contre les âmes. Voilà. C'est pas le bouquin forcément le plus aguichant que j'ai fait, chers amis, mais c'est le plus important sans aucun doute, parce que ce sujet est nucléaire. C'est encore plus grave, je dirais, même que Vatican II, même si bon, peut-être que ma formule est impropre, puisque c'est un enfant de Vatican II, ce rite montinien. Mais vous savez, autant beaucoup de modernistes peuvent nous suivre et beaucoup de traditionalistes peuvent nous suivre dans la critique de Vatican II, mais quand on arrive à la question de l'invalidité du rite de consécration épiscopale montinien, alors là, ça bug, hein, généralement. Pourtant, tels sont les faits, puisqu'il n'y a pas de signification de l'épiscopat dans le rite de consécration épiscopale montinien. L'ouvrage « Ce qu'ils ont dit de lui a été en rupture de stock pendant très longtemps, et il va pas tarder à être de nouveau disponible sur le site. Voilà. Donc patientez, ça arrive bientôt. Voilà pour l'édition Estocade. Et puis aussi, vous pouvez trouver sur le site des éditions Estocade mon dernier bouquin que vous voyez ici, Le Roi, le Dauphin, le Connétable, qui sera, une fois encore, suite à ma dernière émission, je lui dirais mon instrument de combat. Ça sera mon Excalibur pour ce soir. Enfin, pas que, parce que comme vous voyez, je suis venu avec quelques munitions. Désolé pour le bruit, Pierre. Voilà. Alors, quelques petites annonces. Tout d'abord, pèlerinage à la Salette. Est-ce que c'est le week-end prochain ? Je crois. Puis entièrement, c'est le week-end prochain. Les dates précises, oui, 26, voilà. 27, voilà. Donc, vous pouvez aller... vous pouvez vous renseigner sur l'organisation de ce pèlerinage. Comment s'appelle l'association ? Il y a le nom. C'est Pèlerin de...
Je vais regarder, je ne sais pas.
Pardonnez-moi, chers amis. On a parlé du pèlerinage avant les vacances avec Vincent Aubenel, chers amis, rappelez-vous. Je vous invite à aller voir l'émission, d'ailleurs, qui était une émission de bonne qualité.
Pèlerin Notre-Dame de France,
voilà, c'est
PNDF.
Ça. Pèlerin Notre-Dame de France, donc, qui organise... donc c'est un pèlerinage catholique, hein, pas moderniste, pas tradit, catholique. pour Notre-Dame de la Salette. Il reste quelques places, donc n'hésitez pas à contacter l'association si cela vous intéresse. Et on remercie l'association, puisque tout ça, ça fait des grâces qui retombent, bien entendu, sur les intéressés, mais qui retombent aussi sur la France et sur la cause de l'Église. Voilà, tout simplement. J'avais un autre truc. Ah oui, je fais une séance de dédicace aussi, chers amis, samedi prochain. Alors, ce n'est pas à la librairie française cette fois-ci, c'est à la librairie Duquesne. C'est 27 avenue Duquesne. Voilà. Le métro le plus proche, me semble-t-il, est le métro de la ligne 13 Saint-François-Xavier. Voilà, donc je répète, je fais une séance de dédicace samedi prochain à la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne, en face du ministère de la Santé. Du funeste ministère de la Santé, qui pendant des mois a eu une affiche gigantesque « Avorter est un droit ». Non, avorter est c'est assassiné. Voilà, l'avortement, c'est un assassinat, on ne le répétera jamais assez. Et le fait que l'avortement soit à ce point banalisé dans notre société prouve que nous vivons dans une société barbare, malgré les apparences qui peuvent être trompeuses. Encore que quand on revient l'Île-de-France, l'aspect barbare, on le voit assez facilement quand même. Voilà. Vous suivez mon regard, chers amis. Hein. Voilà, donc il y a une tradition qui veut que j'oublie toujours des choses. Donc pardonnez-moi, je vais oublier. Parce que je ne note pas tout ce qu'on me demande de relayer. Je suis coupable, pleinement coupable. Bon, écoutez, ça m'en reviendra peut-être si j'oublie quelque chose. Alors avant de commencer sur le sujet du jour, deux petits mots rapides sur l'actualité. D'abord sur la fameuse mort dont on parle beaucoup de Charlie Kirk. Que s'est-il passé, chers amis ? C'est très simple. La gauche s'est emparée, pour le singer et pour le dénaturer, d'un principe important de la théologie catholique, qui a été abandonné d'ailleurs par les modernistes, dits conciliaires, à savoir que le mal n'a aucun droit à l'existence. Pour l'Église, le mal n'a aucun droit à l'existence. Pour autant, l'Église n'a jamais voulu que ses ennemis soient exécutés, en tout cas pas prioritairement. L'Église espère toujours et vise toujours d'abord la conversion des âmes. Mais la gauche, elle, reprend ce principe, donc elle considère que ses ennemis n'ont pas le droit à l'existence, sauf qu'elle, elle ne cherche pas spécialement à convertir ses ennemis, elle cherche à les exterminer physiquement. Et on l'a toujours vu dans l'histoire. Je rappelle que la gauche est née politiquement, institutionnellement, sous la Révolution française, et ça a été immédiatement la mise en œuvre de ce principe. On l'a vu par ailleurs à la guerre d'Espagne, etc. Et quand la gauche ne veut pas assassiner physiquement, elle le fait socialement. D'où la diabolisation. La diabolisation, c'est la peine de mort sociale. Ça marche de moins en moins, mais c'était ça l'idée. Vous voyez ? Et ce qu'on avait vécu à l'épuration aussi, c'était également ça. Je renvoie à l'émission précédente. Donc la gauche se sent menacée de plus en plus, parce qu'effectivement, il y a des poussées de droite dans divers pays. Donc elle panique, et donc comme elle panique, et comme elle n'a pas toujours les leviers institutionnels pour diaboliser, eh bien elle tue. Voilà. Donc la gauche s'est emparée d'un principe catholique, et elle l'a dénaturé. Il faudrait peut-être qu'un jour, les gens qui se disent de droite considèrent eux aussi que le mal n'a aucun droit. Voilà. Mais version église, pas version gauche, vous l'avez bien compris. Un petit mot rapide sur Prévost. J'ai énormément de travail en ce moment, chers amis. Donc je peux pas faire mon émission bilan encore sur Prévost, qui va me demander beaucoup de temps. Je pense que je la ferai fin octobre, de vous à moi. Mais c'est déjà une boucherie, quoi. Prévost vient de faire une vidéo pour une association qui aide à lutter contre je ne sais plus quelle maladie. Et dans cette vidéo, il cite le Talmud, le principe du Tikkun Olam, je crois, un truc comme ça, la réparation du monde. Et il cite des hadiths, donc des textes musulmans. Comment peut-on croire que cet individu a la foi catholique ? Ce n'est pas sérieux. Alors bien sûr, tout notre hadith de la Fraternité Saint-Pulis à Mathieu Lavagna, en passant par l'abbé Raffray comment s'appelle-t-il déjà celui qui est spécialiste de l'islam. J'ai oublié son nom. L'abbé Pagès, vont vous expliquer que faut pas faire attention. Voilà. Le pseudo-pape n'a pas la foi catholique. C'est rien du tout. Voilà, c'est rien du tout. Il est de foi qu'un pape ne peut pas perdre la foi. Donc, Prévost nous prouve, chaque jour qui passe, nous prouve davantage qu'il n'est pas un successeur de Saint-Pierre. Voilà. Donc, cette émission va être. ça va être une boucherie hein, pour vous, chers modernistes, pardonnez-moi. Et aussi pour les tradis, parce que n'oublions jamais que les tradis sont les collabos du modernisme. Hein, bon. Puisque les tradis visent à donner une légitimité catholique à ce qu'ils critiquent. Ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Mais c'est, vous verrez que ça sera une boucherie, cette émission. Ça sera vraiment une boucherie. Et autant on pouvait comparer Bergoglio à quelqu'un qui utilisait, je dirais, le AK-47 moderniste, donc qui passait son temps à tirer à tout va, Prévost est différent. Prévost, son style, c'est plutôt de poser des mines antipersonnelles modernistes. Vous voyez, il pose des mines, voilà, et il attend qu'on marche dessus. Par exemple, il va nommer un évêque complètement taré. Là, il en a nommé un très bien, là, qui pose avec des ballons de baudruche sur la tête, en Suisse. Et il est pour l'ordination des femmes, bien entendu. Voilà, donc on pose des mines modernistes. Alors, il se peut qu'il fasse bientôt une encyclique, avec des guillemets encycliques. Bon, on verra. On verra. Bon, bah, cher Pierre Tiremont, on va pas tarder à commencer.
Oui.
Alors, dans cette émission, chers amis, je vais combattre fait à la pluie, historien institutionnel à la pluie. J'ai ramené quelques bouquins, pas tous, de ceux que je vais citer. Donc là, on a Raoul Hilberg, hein, historien américain, La destruction des Juifs d'Europe. On a Léon Poliakov, vous voyez, Le bréviaire de la haine, L'étoile jaune. On a le livre de Madame Limor Yagil, qui est une historienne israélienne, ouvrage absolument passionnant, Chrétien et Juif sous Vichy, c'est vraiment passionnant. On a historien israélien encore, Asher Cohen, Persécution et sauvetage. Voilà. Le procès Bousquet, annoté par Baninter. Et on a, par exemple, ce bouquin de Denis Péchanski, La France des camps. Donc Denis Péchanski, qui est un historien du CNRS. Donc on ne peut pas faire plus institutionnel. Hein. On ne peut pas faire plus, chers amis. Voilà. Alors, dans cette émission, chers amis, historien institutionnel est fait à l'appui. Je vais démontrer ceci. Premièrement, Vichy a mis en place le statut des Juifs, non pas sur demande allemande, mais sous pression allemande, en vue de limiter, passez-moi la formule, un maximum, la casse. Deuxièmement, Vichy, tel Pénélope dans l'Odyssée, défait la nuit ce qu'il fait le jour, c'est-à-dire qu'il va, il va avoir diverses mesures qui vont permettre d'atténuer, voire de contourner le statut des Juifs. Troisièmement, Vichy a vidé les camps d'internement qu'il y avait en France, très largement garnis d'ailleurs par la Troisième République, on va en reparler. Et donc le fait d'avoir vidé les camps d'internement a permis à des dizaines de milliers de personnes d'échapper à la déportation. Quatrièmement, Vichy a réussi à empêcher des rafles et des déportations, notamment en septembre 1942 et en août 1943, mais pas que. Cinquièmement, Pierre de Tiremont, il va falloir bientôt dégainer. Cinquièmement, Vichy s'est toujours opposé au port de l'étoile jaune. Est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, la pièce ? Donc Vichy s'est toujours opposé au port de l'étoile jaune, ce qui n'a pas empêché le prestigieux journal L'Express d'écrire et de titrer ceci « Comment Vichy a imposé l'étoile jaune ?» C'est une désinformation absolument scandaleuse, odieuse, anti-française. Là, on est dans le mensonge à l'état pur. Et l'historien que vous voyez en photo sur l'article, c'est M. Laurent Joly. Et l'historien Laurent Joly sait très bien que Vichy n'a jamais imposé l'étoile jaune et que Pétain, Darlan et Laval, tous les trois, se sont opposés aux portes de l'étoile jaune en zone libre. Voilà. Donc là, on est dans la désinformation pure et simple. Tout ça pour vous montrer contre quoi on se bat, quand même. Sixièmement, concernant le Veldiv, Macron et Hollande ont diffamé la France en disant que c'était un crime français. Non, ce n'était pas un crime français. Je vais vous citer une citation de Edgar Morin, le célèbre intellectuel de la Ve République, donc qui était israélite hein, de naissance et qui a vécu ces événements hein, de la guerre. Et il nous disait ceci, sous réserve que je vous le retrouve. C'était quelle page, pardonnez-moi. On va y arriver. Edgar Morin disait ceci. On va y arriver. Zut. Je n'ai pas la phrase. C'est pas grave. Mais en gros, que nous dit Edgar Morin, je l'ai trouvé dans le livre de Pierre Péan consacré à François Mitterrand. Il nous dit, le Veldiv, ce n'est pas Vichy, c'est la police française qui agit sous injonction allemande. Voilà. J'avais une autre phrase sur le Veldiv, mais je l'ai oubliée. Je ne sais plus laquelle c'était. Oui, c'est ça. C'est au procès Bousquet. Au procès Bousquet, dans l'acte d'accusation contre Bousquet, la République, officiellement, reconnaît que la rafle du Veldiv et la livraison des Juifs étrangers qui venaient de la zone, enfin qui étaient dans la zone libre, qui était faite aux Allemands à l'été 42, a été faite sous la contrainte. Or, quand c'est sous la contrainte, la responsabilité n'est pas engagée. Donc on reconnaissait à l'époque que c'était fait sous la contrainte et qu'on n'avait pas demandé son avis au gouvernement français. Hein, Laval et Bousquet ne purent empêcher, nous dit-on dans l'acte d'accusation, n'ont pu empêcher les Juifs étrangers de zone sud, voilà, sous la menace allemande, d'arrêter tous les Juifs français de la région parisienne, etc. Bon. Voilà. Mais Bousquet obtint qu'elle fût faite par la seule police française. Bref, au procès Bousquet, on ne parle quasiment pas, chers amis, de la rafle du Veldiv. Ça prend une place insignifiante. Pourquoi ? Parce qu'on considère que ça a été fait sous contrainte allemande et qu'on n'a pas demandé son choix à la France. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, avant de me lancer dans mon exposé, laissez-moi vous faire quelques petites citations, justement, de tous ces historiens que vous voyez là. Donc, tout d'abord, parce que ces citations vont permettre immédiatement de tordre le cou à des légendes visant à diaboliser Vichy. Et comme je sais que certains d'entre vous sont un peu fainéants et ne vont pas au bout des vidéos, je fais le travail immédiatement. Alors, tout d'abord, nous allons faire une citation de Monsieur Léon Poliakov. Donc, Léon Poliakov, que vous voyez là. Donc, Léon Poliakov, qui est un historien français d'origine juive russe et qui est assez prestigieux sur la question, puisqu'il a créé le Centre de documentation juive contemporaine. Qu'écrit M. Poliakov dans son livre « L'étoile jaune » ? Il écrit quelque chose qui, dite sur le plateau de Laurent Ruquier ou de Léa Salamé, vous vaut une extermination médiatique et peut-être même des procès d'associations plus ou moins antiracistes. Citation de Léon Poliakov. « On pourrait même arguer que l'existence d'un État français de Vichy fut en définitive bénéfique pour les Juifs. On pourrait même arguer que l'existence d'un État français de Vichy fut en définitive bénéfique pour les Juifs. » Léon Poliakov nous dit que Vichy fut bénéfique pour les Juifs. Bon. Ensuite, citation de M. Denis Péchalski. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Le voici son bouquin, « La France des camps, 1938-1946 ». Que nous dit-il ? Donc, historien du CNRS, « La déportation et l'extermination des Juifs de France ne figuraient pas dans les projets de Vichy. » La déportation et l'extermination des Juifs de France ne figuraient pas dans les projets de Vichy. Si vous dites ça dans une émission de Ruquier ou de Léa Salamé, vous vous faites désosser. Mais pourtant, c'était bien la réalité. Voilà. La vérité, chers amis, est malséante à notre époque. Ensuite, alors j'ai pas ramené le bouquin, citation de M. Louis Noguer. Louis Noguer était un résistant socialiste qui présidait la haute cour, c'est-à-dire la cour qui s'occupait des procès d'épuration. Dans son bouquin qui s'appelle « Le véritable procès du maréchal Pétain », il commente une phrase dite par maître Jacques Izorni, défenseur de Pétain, donc, au procès Pétain. Jacques Izorni, au procès Pétain, dit ceci dans une de ses plaidoiries. Le maréchal Pétain n'a livré personne. Le maréchal Pétain n'a livré personne. Et que répond Louis Noguer, président de toutes les cours qui visent à épurer ? Dans l'absolu, c'est vrai. Page 290 de l'ouvrage. Louis Noguer convient que le maréchal Pétain n'a livré personne. Quand les Allemands voulaient mettre la main sur des communistes, des résistants ou des juifs, il ne demandait pas son avis au gouvernement français. il l'imposait par la contrainte. Il faut être d'une malhonnêteté intellectuelle insondable pour nier cette évidence factuelle. Bon. Bref. Ensuite, citation de toujours Léon Poliakov, donc c'est page 422, un petit instant. Donc, tiré de son ouvrage « Toujours l'étoile jaune », il écrit ceci. « L'intention de préserver de la déportation les Juifs français fut l'un des mobiles du gouvernement de Vichy. L'intention de préserver la déportation les Juifs français fut l'un des mobiles du gouvernement de Vichy. » Quand Zemmour avait dit ça à Chirouki il y a 10 ans, il s'était fait désosser, rappelez-vous. Voilà. Ensuite, citation toujours de Poliakov, et on va enchaîner avec une citation... Non, on va peut-être faire d'abord la citation de Raoul Hilberg, que vous voyez là, hein, la destruction des Juifs d'Europe. « Les Juifs étrangers et les immigrants furent abandonnés à leur sort, et l'on s'efforça de protéger les Juifs nationaux. » Voilà, effectivement, le gouvernement français a priorisé les Français sur les immigrés, sur l'équivalent des OQTF, pour certains d'entre eux qui étaient les équivalents des OQTF d'aujourd'hui. Effectivement, le gouvernement français, ça c'est vrai, c'est factuel, a priorisé les Français sur les immigrés. Voilà. Dans une certaine manière, nous dit Raoul Hilberg, dans une certaine mesure, pardon, cette stratégie réussit. En renonçant à épargner une fraction, on sauva une grande partie de la totalité. En renonçant à épargner une fraction, on sauva une grande partie de la totalité. Donc, on nous matraque que les historiens, aucun historien ne dit que Vichy a sauvé des Juifs, c'est totalement faux. Hein. Quasiment tous ceux que je cite là, notamment, le disent. Hein. Et d'autres, dont je n'ai pas amené les bouquins, le disent également. Notamment Jean-Marc Berlière, qui a fait des très bons bouquins que je vous recommande, chers amis. Un des rares historiens français à le dire aujourd'hui. Donc, citation de Léon Poliakov, tirée du Bréviaire de la haine, que vous voyez là. « Du sort relativement plus clément des Juifs de France, Vichy fut en fait le facteur prépondérant. » Du sort relativement plus clément des Juifs de France, Vichy fut en fait le facteur prépondérant. Voilà. Ensuite, petite citation, non pas de l'historien Robert Aron, chers amis, mais de Raymond Aron, le prestigieux intellectuel de la Ve République, Raymond Aron, qui écrit ceci dans un article d'octobre 1945 au sujet du statut des Juifs. Il est possible que le statut des Juifs ait servi quelque temps d'écran de protection et en retardant l'application intégrale des lois de Nuremberg ait atténué la misère des Juifs. Sans l'armistice, ceux-ci auraient probablement souffert physiquement davantage. Je répète, il est possible que le statut des Juifs, il dit qu'il est possible, mais il sait très bien que c'est certain, sinon on l'écrirait pas d'ailleurs, que le statut des Juifs ait servi quelque temps d'écran de protection. On va revenir là-dessus. Ensuite, citation de Madame Limor Yagil, ouvrage passionnant que j'ai découvert l'année dernière. Que nous dit-elle ? Là aussi, si vous dites ça chez Ruki ou Léa Salamé, vous vous faites flinguer. En zone libre, les nombreuses dérogations accordées aux Juifs leur permettaient de continuer à vivre normalement, donc pendant l'occupation. Je répète, en zone libre, pas en zone occupée, en zone libre, les nombreuses dérogations accordées aux Juifs leur permettait de continuer à vivre normalement. Et enfin, ultime citation de M. Robert Paxton, car, chers amis, je cite énormément dans le livre annexe que j'ai fait sur la question juive pour ce bouquin, je cite énormément Robert Paxton et Serge Klarsfeld, dans lesquels je trouve des éléments factuels qui réfutent la doxa dont ils sont les zélateurs. Cherchez l'erreur. Donc, citation de Paxton, tirée de son bouquin « Vichy et les Juifs ». Vichy n'installa pas le système de ségrégation sociale à l'encontre des Juifs. Vichy n'installa pas de système de ségrégation sociale à l'encontre des Juifs. Les Juifs ne furent jamais dans la France de Vichy coupés de la société et de la conscience publique, ni par les ghettos, ni par des cloisons étanches résultant des lois. Même dans la zone occupée, les lois de Vichy s'appliquaient encore et les Juifs continuèrent à paraître en public tout au long de la guerre. Vichy n'établit pas de restrictions pour les mariages mixtes ou l'adoption. Les synagogues restaient ouvertes et bien remplies, et les commerces rituels, quoique mis sous administration provisoire, fonctionnaient toujours. Les Juifs circulaient librement et se rencontraient entre eux, etc. etc. Donc, personne ne dit Vichy n'installa pas de système de ségrégation sociale à l'encontre des Juifs. Ça encore, si on le dit à la télé, Je pense qu'on a des petits soucis. Voilà. On se souvient de cette jurisprudence complètement folle de Zemmour face à Léa Salamé, qui était une mauvaise blague, une mauvaise plaisanterie. Hein. Bon. Avec Léa Salamé qui s'érigeait en autorité intellectuelle, prière de ne pas rire. Bref. Voilà, donc dans une première partie, chers amis, je vais traiter de la question du statut des Juifs, et dans une deuxième partie, je traiterai de la question des déportations. Alors, selon l'histoire officielle, Vichy a instauré le statut des Juifs parce que c'était de toute façon un régime antisémite et que le régime a toujours voulu instaurer un tel régime. Ceci est totalement faux. Vichy a pris au début de l'été des mesures contre les étrangers, mais n'avait pris absolument aucune mesure contre les Juifs spécifiquement avant l'adoption du statut des Juifs. Pourquoi la question du statut des Juifs arrive-t-elle sur la table ? Nous allons voir que le statut des Juifs a été établi sous pression allemande pour faire un contre-feu en vue de détourner l'attention des Allemands des Juifs de France. Le 8 septembre, le général de la Laurencie, qui est le délégué du gouvernement français dans les territoires occupés, apprend que les Allemands vont, sous peu, prendre des mesures contre les Juifs de zones occupées. Deux jours plus tard, en conséquence, la question juive arrive pour la première fois au Conseil des ministres. Pour la première fois, elle est discutée. Et les ministres conviennent que s'ils n'agissent pas, et les Allemands vont imposer des décisions encore plus brutales aux populations juives de zones occupées. Le 27 septembre, les Allemands prennent leur première ordonnance anti-juive. D'abord, une ordonnance qui ordonne un recensement. Ensuite, une ordonnance qui oblige les commerçants juifs à indiquer qu'ils sont juifs, vous savez, sur leur vitrine. Et ils interdisent aux juifs partis en zone sud de revenir en zone occupée. De vous à moi, au moment de l'Exode, énormément de Juifs sont allés en zone sud, et notamment des milliers de Juifs se sont rendus où, chers amis ? À Vichy même. Xavier Vallat le relève dans un de ses rapports du mois de décembre 41. C'est-à-dire que les Juifs s'étaient rapprochés de la capitale du régime. Voilà qui fait bugger les zélateurs de la doxa. Donc, le 27 septembre, les Allemands prennent ces mesures anti-juives. Et en réaction, vous voyez que le gouvernement est toujours en réaction, pour faire contre-feu, le gouvernement adopte l'idée qu'il va falloir faire un statut des Juifs pour opposer des normes qui émanent du gouvernement afin d'empêcher les Allemands d'édicter leurs propres normes. En somme, l'idée est de faire écran. C'est ce qu'a relevé, rappelez-vous, Raymond Aron dans sa citation, qui ne fait pas plaisir au tenant de l'histoire conventionnelle, conformiste, institutionnelle, mais qui est la vérité, citation de Raymond Aron, « Il est possible que le statut des Juifs ait servi quelque temps d'écran de protection en retardant l'application intégrale des lois de Nuremberg. » Voilà. Alors, ceci étant posé, quelles étaient les mesures prévues dans ce statut des Juifs ? D'abord, les Juifs étaient exclus de la haute administration, de la presse et du cinéma. Les Juifs anciens combattants pouvaient rester travailler dans l'administration à des postes subalternes. C'était le cas également des Juifs qui ont la Légion d'honneur et qui avaient rendu des services exceptionnels au pays. Pour les Juifs qui ont à ce moment-là perdu leur emploi, on estime que le statut des Juifs, en gros, a touché 3000 personnes, un peu moins de 3000 personnes, ce qui faisait à peu près 1% de la population juive qui était en France à l'époque, la population juive française. Donc les fonctionnaires juifs qui ont été mis à la retraite de la sorte ont touché une retraite, et ceux qui n'étaient pas assez âgés pour avoir une retraite ont néanmoins eu une indemnité. Cette loi aussi, enfin dans le statut des juifs, était prévue une loi du 4 octobre 1940 qui autorisait les préfets à interner les juifs étrangers dans les fameux camps d'internement. Je précise que les camps d'internement dont Denis Pechanski a fait un bouquin, n'avait rien à voir avec les camps allemands. À tel point que le problème numéro un dans les camps en France était celui de l'oisiveté. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de morts. Il y a eu à peu près 3000 morts sur 600 000 personnes qui sont passées dans ces camps de 1938 à 1946. Alors, je précise qu'avant que Vichy adopte cette loi, qui ne valait que pour la zone sud, il y avait déjà 35 000 personnes dans les camps d'internement en France. 35 000, et en gros, les Juifs étaient 70% de ces 35 000 personnes. Donc la Troisième République avait très largement rempli ses camps, et notamment en faisant la première rafle du Vel'd'Hiv. La première rafle du Vel'd'Hiv a eu lieu en 1940, où le gouvernement de Paul Reynaud, donc je répète, en ce mois de mai 1940, a réuni les femmes juives qu'il y avait en Île-de-France. Ils les ont mises, ils ont parqué dans le vélodrome d'Hiver, avant de les envoyer au camp d'internement de Gurs, où les Allemands piocheront plus tard pour faire des déportations. Voilà. Mais ça, on n'en parle jamais. Jamais on ne parle de la responsabilité de la Troisième République. Jamais on parle de la responsabilité de Paul Reynaud. On fait tous les sophismes et les acrobaties pour incriminer Pétain, Laval et autres. Mais alors là, la première rafle du Vel'd'Hiv, motus et bouche cousue. Sachant que la deuxième rafle du Vel'd'Hiv a été faite sous la contrainte et sous la menace de déporter des Juifs français. Là, il n'y avait aucune contrainte. Ça a été fait spontanément. Par ailleurs, dans ce statut des Juifs, il y a une abolition du décret Crémieux, mais un décret sera adopté par le gouvernement pour que les Juifs anciens combattants puissent redemander la nationalité française. Le 2 juin 1941, pardon, Xavier Vallat va faire un nouveau statut des Juifs. À l'ancien est ajouté le fait que désormais il y a un numerus clausus pour les professions libérales, où on ne tolère que 2% de Juifs. Et de même, dans les universités, il y a un numerus clausus qui est fixé à 3%. Ensuite, ce statut prévoit une des mesures qui va faire le plus de mal aux populations juives de l'époque, qui est ce qu'on appelle l'arianisation des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises dont les propriétaires étaient des juifs, eh bien, vont être mises sous un statut spécial qui fera que les sociétés vont être liquidées et les propriétaires vont toucher le produit à liquidation moins 10% qui sont remis à la caisse des consignations. C'est-à-dire que pourquoi le gouvernement a pris ces mesures? Parce que les Allemands, depuis le mois d'avril 1941, avaient pris, eux, des mesures de spoliation pure et simple pour les entreprises détenues par des personnes juives. Où là, c'était une spoliation pure et simple, il n'y avait même pas de liquidation du produit, c'est-à-dire que c'était du vol pur et simple. Voilà. Et il en a résulté une grande pauvreté parmi, enfin une paupérisation des concernés. Alors, au-delà de l'aspect, si vous voulez, de l'aspect justement de la paupérisation, des Juifs de l'époque ont été blessés de se sentir rejetés par la nation. Je vais vous citer le cas du sénateur Pierre Masse, sénateur et avocat, ancien combattant, qui écrit une lettre à Pétain le 16 février 1941. Il dit ceci: d'ascendance strictement française, dans toutes les branches et aussi loin que je puis remonter, officier d'infanterie titulaire de citation qui ont tous été gagnés en avant des lignes françaises, etc., ayant parmi mes parents les plus proches quatre officiers tués à l'ennemi, membre du conseil de mon ordre, régulièrement élu sénateur par mes compatriotes de l'Hérault, je n'accepte pas d'être traité en français de deuxième catégorie. Plus tard, les Allemands vont rafler Pierre Masse en décembre 1941. Vichy va intervenir pour essayer de le faire sortir, mais ils ne vont pas réussir et Pierre Masse sera assassiné quand il arrivera à Auschwitz. Voilà. Donc voilà pour ce qui est le statut des Juifs. Donc comme je vous l'ai évoqué, Vichy va adopter une stratégie de Pénélope où le régime défait la nuit ce qu'il a fait le jour. Alors d'abord, concernant le statut des Juifs, le régime va reclasser un grand nombre de fonctionnaires qui ont perdu leur emploi, justement à cause du statut des Juifs. Donc c'est le cas par exemple de M. Georges Cohen Salvador, qui était membre du Conseil d'État. Le ministre de la Production, Pierre Pucheux, va le reclasser en qualité de directeur du commerce intérieur. Et il s'en explique auprès du cabinet d'Arlan de l'époque en disant: j'envisage donc de l'affecter dans un service où ses connaissances seront utilisées sans que sa présence puisse faire naître aucune remarque regrettable d'ordre confessionnel. Donc vous voyez, on recase, on reclasse ceux qui ont perdu leur emploi. Pétain, par ailleurs, va accorder des dérogations. Il va en accorder au moins 100, nous dit Madame, je crois, Limor Yaguil. Donc 30 ingénieurs, notamment ingénieurs de l'industrie navale, 20 professeurs de l'enseignement supérieur, 30 officiers de l'armée de terre, etc. Et le commissariat général aux questions juives, je ne vais pas avoir le temps d'en parler beaucoup aujourd'hui, chers amis, va également accorder près d'une vingtaine de dérogations. Et ensuite, il y a une autre technique toute simple, c'est que le régime va tout simplement fermer les yeux sur le maintien de certains hauts fonctionnaires juifs. C'est le cas, par exemple, de M. Georges-Paul Louis Israël, qui, citation, continue à être employé à la préfecture d'Annecy en qualité de chef de bureau à la section départementale du ravitaillement général de la Haute-Savoie, même en mai 42. Cet exemple parmi d'autres met en relief le fait que les lois de Vichy n'étaient pas toujours appliquées avec zèle à l'égard des fonctionnaires juifs. Autre citation de Mme Limor Yagil. Il est surprenant de constater combien nombreuses au sein de l'élite politique de Vichy ont été les personnes qui, à l'exemple de Berthelot, de Robert Gibras, de Pierre Pucheux, de René Belin, de Pierre Casiot, de Georges Lamiran, de l'amiral Auffan, de Jean Jardel, de Jacques Guérard, de Pierre Catala, du général Laure, de Jean Bichelonne, de Jacques Bardot et d'autres, contribuèrent par différentes stratégies à limiter la mise en application des lois antisémites de Vichy et des ordonnances allemandes. Voilà. Donc vous voyez, stratégie de Pénélope. Par ailleurs, le deuxième statut des Juifs fait par Xavier Vallat a permis à des Juifs qui avaient perdu leur emploi au titre du premier statut de le recouvrer. Mais là, on n'a pas les chiffres précis. Paxton l'évoque, mais il ne donne pas de chiffres précis. Voilà. Alors ensuite, j'en arrive à la question du numerus clausus. Rappelez-vous, le statut fait par Xavier Vallat en juin 1941 instaure un numerus clausus de 2% de Juifs dans les professions libérales. 2%. Et de 3% dans l'université. Or, quelle était la proportion de la population juive parmi la population française à l'époque des faits ? Réponse, 0,4%. Donc le gouvernement a choisi un pourcentage qui est 5 fois supérieur concernant les professions libérales et qui est 6 fois supérieur, voire peut-être même davantage, concernant les étudiants. C'est même presque 8 fois davantage. Puisque 4 fois 8, 32, n'est-ce pas ? Alors ensuite, il y a eu un non-respect tout simple parfois du numerus clausus. Dans un livre de Robert Badinter consacré au barreau de Paris sous l'occupation, il est relevé que normalement, au titre du en raison de l'application du statut des Juifs, il aurait dû y avoir au barreau de Paris que 42 avocats juifs. Or, il y en a eu 92, donc il y a eu un dépassement pendant la guerre. Et il en va de même de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Et là, je vais vous retrouver la référence de l'intéressé. Voilà, donc le président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et de la Cour de cassation s'appelait Maître André Morillot. Voilà. Et dans cet ordre qui est spécifique donc pour la Cour de cassation et le Conseil d'État, c'est-à-dire que les avocats comme votre serviteur, par exemple, ne font pas partie de cet ordre-là. Moi, je ne peux pas plaider devant la Cour de cassation et le Conseil d'État. Bon. Donc, Maître André Morillot, qui était le président de cet ordre, avait fait remarquer à Xavier Vallat qu'il y avait 4 avocats juifs dans cet ordre et que la mise en application du statut des Juifs obligeait que 2 soient exclus. Il en parle à Xavier Vallat. Xavier Vallat, qui était donc le commissaire aux questions juives, a dit il n'y a pas de problème, faites comme. Enfin, voilà, vous pouvez garder tous les avocats israélites, on n'en exclut aucun, il n'y a pas de souci. Alors que ça allait au-delà du numerus clausus. Et Maître André Morillot a attesté en faveur de Xavier Vallat, d'ailleurs, à son procès. Combien de personnes ont perdu leur emploi en raison du numerus clausus ? Je vous avoue que je ne sais pas. Parce que je n'ai trouvé aucun livre dans lequel c'est évoqué. Et selon Xavier Vallat, citation, le numerus clausus ne joue pratiquement que dans la Seine et en Afrique du Nord. Voilà. Ensuite, c'est très peu su. Ça, je l'ai découvert en lisant les ouvrages, notamment, enfin d'abord en lisant l'ouvrage de H.R. Cohen, Persécution et sauvetage. Vichy a vidé les camps d'internement, ce qui a drastiquement limité, pour plus tard, le nombre de déportés potentiels. Ça, on ne vous le dit pas, chers amis, que Vichy a vidé les camps d'internement qui avaient été, d'ailleurs, très grandement remplis par la Troisième République. Comment le régime a-t-il fait ? Il y a une mise en place, il y a la mise en place d'une politique parfaitement consciente par le ministre de l'Intérieur, Pierre Pucheux, qui est un héros français, dont on reparlera sans doute à ce micro. Et Pucheux, très concrètement, avec un haut fonctionnaire qui s'appelle André Jeanfort, a mis en place une politique d'émigration. Je cite, je consacre un chapitre, chers amis d'ailleurs, à tous les efforts que Vichy a fait pour essayer d'envoyer les juifs étrangers qu'il y avait sur le territoire français aux États-Unis. Alain Michel, historien israélien, y a consacré une partie de ses travaux. Et les États-Unis ont toujours mis leur veto, à quelques exceptions près. S'ils avaient accepté leur venue aux États-Unis, un certain nombre de ces juifs étrangers n'auraient pas été déportés et auraient pu sauver leur vie. Voilà. Je l'ai dit en passant. Mais en toute cette cause, à ce moment-là, il y a une politique d'émigration qui est mise en place par le gouvernement. Et le gouvernement autorise donc une organisation juive américaine qui s'appelle le LICEM, H-I-C-M, je ne sais pas ce que signifie l'acronyme. Donc, l'ICEM a une autorisation officielle pour être présent dans les camps et ils mettent en place un véritable bureau d'émigration. Et ça permettra à 6500 personnes de pouvoir quitter la France pour aller dans divers endroits du monde. Voilà. Ensuite, il y a eu des libérations pures et simples ordonnées par le ministère de l'Intérieur. On a aussi permis à des personnes internées de quitter les camps via des permissions médicales. Les enfants aussi ont été placés dans des familles d'accueil. Et il y a eu aussi une aide caritative qui, avec la complicité officieuse du gouvernement, a permis aux intéressés, en gros, enfin, le gouvernement en gros a permis à des associations d'organiser la fuite d'un certain nombre de personnes. Donc je répète que Vichy a vidé les camps d'internement. Mais est-ce que vous imaginez Arte nous dire cette vérité, chers amis ? Moi non, pas tellement. Si bien que, à l'été 1942, en vue de la mise en place, en vue de la préparation des déportations des Juifs de France, le délégué d'Eichmann en France, qui s'appelle Dan Ecker, va faire une tournée des camps d'internement où il espère pouvoir, entre guillemets, pardonnez-moi cette formule, s'approvisionner en personnes déportables. Eh bien, Dan Ecker va être extrêmement déçu du nombre de Juifs qu'il va trouver dans les camps. Citation de M. Robert Paxton. Le jeune officier SS, donc Dan Ecker, fut très déçu du nombre de Juifs internés qu'il y trouva. Lorsqu'il partit pour le Sud, le 11 juillet 1942, il s'attendait à environ 40 000 Juifs internés. Lorsque Dan Ecker arriva à Gurs, où il comptait trouver au moins 20 000 Juifs, le camp en comptait 2 599. Il comptait en avoir 20 000, il n'y en a que 2599, dont tous n'étaient pas déportables. Et Gurs a été en partie alimenté, je le rappelle, par la première rafle du Veldiv faite par le gouvernement de Paul Reynaud. Il lui semblait d'ailleurs que les Français avaient utilisé la loi du 4 octobre principalement pour interner les Juifs de nationalité allemande, ce qu'il attribuait à l'hostilité de l'administration française. Selon Dan Ecker, d'ailleurs, le faible nombre d'internés indique que la loi du 4 octobre, en réalité, qui permet d'interner donc les ressortissants étrangers, n'était pas appliquée. En outre, lors de sa visite dans les camps d'internement de la zone libre, et là je cite Serge Klarsfeld de son ouvrage Vichy-Auschwitz, page 129, Serge Klarsfeld nous dit que l'officier SS, citation, est irrité par la présence des Juifs sur la Côte d'Azur, en particulier dans les casinos. Donc Vichy a fait passer de décembre 1940 à l'été 1942 le nombre de Juifs internés, le nombre d'internés, parce qu'il n'y avait pas que des Juifs, les Juifs étaient en gros 70%. Donc Vichy a fait passer le nombre d'internés de 50 000 à moins de 10 000. On pourrait quand même mettre ça au crédit du gouvernement. Ça a sauvé un grand nombre de vies, puisque des personnes n'ont plus pu être déportables. Parce que quand il va y avoir les déportations qui vont suivre en juillet 1942, les personnes qui vont être appréhendées par les Allemands, livrées aux Allemands si vous préférez, mais si le terme selon moi est impropre parce qu'on n'a pas demandé son avis au gouvernement, vont être prises dans ces camps que Vichy avait préalablement vidés en grande partie, comme je vous l'ai dit. Voilà. Voilà. Ce que j'avais un point à vous dire. Voilà, donc, citation de H.R. Cohen que vous voyez là. La diminution constante du nombre d'internés n'est pas entièrement due aux associations, etc., patati et patata, mais le nombre de juifs déportables en août 42 fut bien inférieur à ce qu'il aurait pu être fin 40 ou début 41. Voilà. Ensuite, concernant l'aryanisation, Vichy a saboté l'aryanisation. Il y a eu 31 500 aryanisations d'entreprises en zone occupée et en zone libre, 1 500. Donc ça n'a rien à voir. Il est vrai que la plupart des commerces juifs étaient à l'époque plutôt en zone occupée, mais ça n'explique pas tout, puisque Vichy, en fait, a fait un système qui, contrairement au système allemand, premièrement, ne concerne pas toutes les entreprises juives, et deuxièmement, enfin, c'est pas obligatoire, pardon, et ça ne vise pas dans le régime de Vichy tous les types de sociétés. Vous voyez, ça concernait seulement certains types de sociétés, et notamment, ça ne visait pas les sociétés immobilières. Donc, ça limitait l'aryanisation. Et là, je vais vous faire une petite citation, toujours de Madame Limor Yagil, qui nous disait ceci, toujours des choses que si vous dites Chiriquier ou Salamé, vous faites crucifier. Citation, donc tirée de ce bouquin. On constate que le commissariat général aux questions juives sous Valla protégeait les juifs dans une certaine mesure. Les lois françaises déjà publiées ne furent pas entièrement appliquées en zone libre. Valla et les préfets furent généralement accusés de vouloir saboter le succès de la politique d'aryanisation en zone libre. Valla et les préfets furent généralement accusés de vouloir saboter le succès de la politique d'aryanisation en zone libre. Et autre citation de Madame Limor et Aguil toujours. Plusieurs dizaines d'interventions en faveur des Juifs arrivèrent en partie du cabinet du maréchal et rendirent extrêmement difficile le travail antisémite en zone libre. Donc là, on dit que le cabinet du maréchal Pétain a contribué à saboter la question. Alors, il y a eu un recensement des Juifs qui a été fait en zone libre, mais en gros, les résultats n'ont jamais été donnés aux Allemands. Et en Algérie, eh bien, le gouvernement a retardé aussi longtemps que possible l'application du statut des Juifs. Voilà. Donc, retenez une chose sur le statut des Juifs, c'est que le gouvernement Vichy fait la stratégie de Pénélope, c'est-à-dire qu'on défait la nuit ce qu'on fait le jour. Toujours dans une logique de moindre mal. D'aucuns diront que le gouvernement, enfin qu'il lui mieux valu que le gouvernement ne mette pas le doigt dans le grenage. Peut-être, peut-être. Mais il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que peut-être que moralement, c'est vrai que bah, c'est toujours mieux de ne pas mettre le doigt dans le grenage, mais par contre, bah, il y aurait eu plus de morts. C'était ça, la problématique. Et le gouvernement a fait le choix d'essayer de limiter le nombre de victimes. Donc maintenant, je vais en arriver à la question des déportations. Alors là, nous allons réfuter une accusation de l'historien de la Ve République, Laurent Joly, qui en 2018 sur France Culture avait déclaré que la politique de Vichy était de livrer un maximum de juifs. Nous allons voir que c'est totalement faux. Et tous les historiens que je vous ai déjà cités là le disent, hein, en passant. Bon. Et d'autres le disent encore d'ailleurs. Je vais commencer par tordre le cou à deux idées reçues et à dire une chose qu'on ne vous dit jamais. Premièrement, l'une des légendes noires qu'on nous dit, c'est que les Allemands avaient besoin de Vichy pour mobiliser la police française. C'est un pur mensonge. C'est un pur mensonge. Au titre de la Convention de La Haye, l'administration française obéissait à l'autorité occupante, donc aux Allemands. Et les Allemands, dans plein de domaines, donnaient directement leurs ordres à la préfecture. Et on verra que c'est ce qu'ils ont fait pour plusieurs rafles, d'ailleurs. Donc les Allemands n'avaient pas besoin de l'accord de Vichy pour solliciter, pour utiliser la police française. Il est vrai que pour que les fonctionnaires traînent moins des pieds, il valait mieux avoir l'accord du gouvernement. Mais dans l'absolu, ils n'avaient pas besoin de cet accord. Et à plusieurs reprises, ils s'en sont passés. Donc retenez ceci, les Allemands n'avaient pas besoin de l'accord du gouvernement pour utiliser la police française pour faire des rafles. Deuxièmement, la matrice bug. Pourquoi? Parce que la France est le pays d'Europe qui a eu le taux de survie des Juifs, le taux des pays d'Europe occupés, qui a eu le taux de survie des Juifs le plus élevé et de très loin. De très très loin. Bon. Il y a eu un taux de survie de 75% en France. En Belgique, c'est 50%. En Hollande, c'est 50%. Et en Pologne, c'est 5%. Vous voyez, bon. Donc là, il y a un bug. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que c'est surtout pas grâce au gouvernement du maréchal Pétain, c'est grâce aux justes d'Israël qui ont caché des juifs. Cette explication ne tient pas la route, parce que les justes n'ont pu cacher que quelques centaines, allez, au max quelques milliers. Ça n'explique pas les centaines de milliers de personnes qui ont pu échapper aux déportations. En vérité, comme l'a dit Poliakov dans son bouquin « Le brouillard de la haine », le facteur prépondérant fut Vichy. Je cite un rapport du grand rabbin de Paris, Kaplan, écrit à l'été 44, qui est cité en partie par Asher Cohen. Que nous dit le grand rabbin? Il nous dit qu'à l'été 44, il y avait en Île-de-France, donc pas planqué à la campagne, en Île-de-France, 40 000 juifs encore qui portaient l'étoile jaune, dont l'adresse était connue et qui était, citation, une proie facile en une seule opération. Or, les Allemands n'ont jamais appréhendé les intéressés. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement de l'époque qui mettait des bâtons dans les roues. Tout simplement. Et les justes, quel que soit leur mérite, n'y étaient pour rien. Voilà. Et ensuite, ce qu'on vous dit jamais, et ça c'est scandaleux, c'est qu'une bonne partie des rafles qui ont eu lieu à l'époque ont été faites à cause des communistes. Parce que c'est en réaction aux attentats communistes que les Allemands prenaient prétexte pour faire des rafles. J'attends toujours les excuses du Parti communiste français qui aime tant la repentance pour la France. J'aimerais des excuses officielles du Parti communiste français. Voilà. On en reparlera. Donc d'abord, nous allons parler, chers amis, des rafles de 1941 à Paris. Et là, je vais tuer tout suspense. Vichy n'y est pour strictement rien, puisqu'on ne lui a absolument pas demandé son avis, et que les Allemands ont agi seuls. Il y a eu trois rafles à Paris en 1941, dont deux en réaction aux attentats communistes. Bon. Première rafle, le 14 mai, qui a visé principalement des apatrides et des ressortissants du Reich. Deuxième rafle, le 20 août. Et là, les Allemands commencent à déporter des Juifs français, ce qui fait que le gouvernement français commence à s'opposer au Reich sur ces questions, enfin à l'occupant. Troisième déportation, le 12 décembre. Donc comment se sont passées ces rafles? Pour les deux premières rafles, que s'est-il passé? Les Allemands ont directement envoyé leurs ordres à la préfecture pour mobiliser la police parisienne, et la police a obéi à la force occupante, comme le prévoit la convention de La Haye. À aucun moment Vichy n'a été mis dans la boucle, à aucun moment on lui a demandé son avis, à aucun moment Vichy n'a donné son approbation pour cela. Vichy est totalement innocent de ces rafles. Totalement innocent. Je répète, les Allemands ont mobilisé à eux seuls, enfin par eux seuls, l'administration française qui leur obéissait selon les règles de la Convention de La Haye. Ensuite, la rafle du 12 décembre, là, a été faite par la police allemande. Voilà. On estime qu'en gros, 80% des Juifs qui ont été arrêtés pendant la guerre l'ont été par la police française et 20% par la police allemande. Mais police française obéissant aux ordres de la force occupante, sous contrainte, n'en déplaise à Macron et à François Hollande qui ont osé dire que tout ça, c'était des crimes français. C'est scandaleux. On n'a pas demandé leur avis aux Français. Et on ne l'a pas demandé au gouvernement. Bon. Nous arrivons au... Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que donc, il y a eu un peu moins de 10 000 juifs raflés à ce moment-là. Et Vichy a fait libérer 850 internés juifs. 850 qui donc ont été sauvés. On vous en parle de ça? Du fait que Vichy a fait libérer des déportés? Enfin, des internés en tout cas, qui, ceux qui ne seront pas libérés seront déportés par la suite. On vous le dit jamais ça. Bon. Donc on arrive au rafle dont on parle un peu plus souvent, pour accabler la France, au rafle de l'été 42. Alors que s'est-il passé? Le 11 juin 1942, Eichmann, qui est celui qui s'occupe, enfin, le SS qui s'occupait donc de la déportation au niveau du Reich, veut qu'il y ait 100 000 déportations de juifs venant du Benelux et de la France. 100 000. Son délégué en France, je vous l'ai évoqué, s'appelle Daneker. Et Daneker prévoyait dans un premier temps la déportation de 40 000 juifs français et étrangers. Je répète, français et étrangers. Et contrairement à ce que vous disent certains historiens un peu sérieux, la décision des Allemands de déporter des juifs est irrévocable. Il n'est pas une seule, enfin, il n'était pas question une seule seconde de revenir sur cette décision. Et on n'a pas demandé son avis à Pétain, à Laval et compagnie. Bon. Donc, les Allemands mettent la pression et disent « Nous allons déporter 40 000 personnes de chez vous, dont 40%, je crois, de mémoire, de juifs français. » Oui, c'est le 25 juin 1942. Daneker s'adresse à Le Guay, donc le délégué français du ministère de l'Intérieur en zone occupée, et il lui dit qu'on va commencer par déporter 22 000 juifs, dont 40% de français. Ça, c'est le 25 juin. Les Allemands, rappelez-vous, ont à leur disposition la préfecture, les préfectures. Et déjà, ils notifient leur décision pour mobiliser la police française en vue de faire ces rafles. Et encore une fois, le gouvernement n'intervient à aucun moment. À aucun moment. Le 26 juin, au Conseil des ministres, cependant, Laval s'oppose aux rafles. Et il le dit à Daneker. Hein. Donc Laval s'oppose aux rafles. Et là, on va citer, on va pas tarder à citer Paxton. Donc Daneker donc, va répliquer à Laval que, citation, l'Allemagne avait décidé et la police française, écoutez bien ça, c'est fondamental. Ça, je cite Paxton. Hein. La police française devait obéir aux Allemands même si le gouvernement français n'en donnait pas l'ordre. Même si le gouvernement français n'en donnait pas l'ordre, la police française devait obéir aux Allemands. Donc quand on vous dit qu'il y a besoin de l'accord du gouvernement, c'est un pur mensonge. Un mensonge anti-français qui sert à véhiculer la haine de la France, la haine de soi. C'est un mensonge. Et là, je vous cite Klarsfeld, Paxton. Et personne ne le conteste, ça. Personne ne le conteste. Donc, vous disais-je, Laval s'oppose aux déportations. Il dit, moi, personnellement, je ne roulerai pas avec vous. Et le 3 juillet, Daneker se prépare à agir seul, sans aucune approbation du gouvernement. Donc là, nous sommes le 3 juillet. Donc, citation de Paxton toujours. Daneker se prépara à agir seul, donnant des ordres directement à la police française, comme en 1941. Je répète, Daneker se prépare à agir seul, en donnant des ordres directement à la police française, comme en 1941. Donc, il n'y avait absolument pas besoin du gouvernement pour faire les déportations. Absolument pas. Donc là, Daneker s'apprête à rafler en vue d'une déportation des juifs étrangers et des juifs français. Mais Laval ne veut pas la déportation des juifs français. Donc là, de façon imminente, des juifs français vont être raflés et déportés. Et pourtant, chers amis, ces juifs français ne seront pas raflés et déportés. Pourquoi ? Bah grâce à Laval. Puisque Laval, le lendemain, voyant que de toute façon Daneker va agir, va lui dire « Écoutez, nous, on vous donne notre accord pour rafler les juifs étrangers et les ramener en Pologne où vous nous avez dit que vous allez créer un État juif. » Parce que, petite parenthèse, il y a un anachronisme qui est fait systématiquement et qui est d'une malhonnêteté intellectuelle, mais immonde, dégueulasse, qui consiste à dire que le gouvernement français savait ce qui allait arriver précisément aux populations déportées. C'est totalement faux. Personne ne savait précisément ce qui leur arrivait. Et d'ailleurs, personne n'en a parlé parmi les chefs d'État occidentaux. Donc faire ce procès à Vichy, c'est minable. Minable. Bon. Donc Laval dit, écoutez, on vous laisse déporter les juifs étrangers, par contre, vous ne touchez pas aux juifs français. Voilà. Et là, je cite Raoul Hilberg, qui nous dit, donc Laval décida de sauver les nationaux, donc il nous dit clairement que Laval a sauvé des juifs français, et laisser la police participer au rafle. Et donc, le compromis obtenu par Laval, nous dit toujours Raoul Hilberg, citation, a donné un coup de canif au plan allemand en sauvant les juifs français. Donc, je répète, Raoul Hilberg écrit que Laval a donné un coup de canif au plan allemand en sauvant les juifs français. On a le droit de le lire ou pas? Si c'est la vérité, est-ce qu'on a le droit de le lire? Bon, quand même. Alors, par ailleurs, donc là, se produit la rafle du Veldiv et vont être arrêtés 13 152 juifs étrangers ressortissants du Reich. Ce point est important. On en reparlera dans quelques instants. C'est un échec d'un point de vue allemand, parce que, rappelez-vous, il visait à la base, de mémoire, 22 000 personnes. Pourquoi c'est un échec? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a eu plusieurs fuites, et notamment de Xavier Vallat. Rappelez-vous, Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives. Xavier Vallat avait un ami juif ancien combattant qui s'appelle le docteur Gaston Nora, qui était un des représentants de la communauté juive en Île-de-France. Xavier Vallat a averti le docteur Gaston Nora, docteur Gaston Nora, qui est venu témoigner en faveur de Xavier Vallat à son procès, hein, en 47-48. Donc Xavier Vallat a averti le docteur Gaston Nora qu'une rafle allait être imminente, et Nora a pu avertir des juifs étrangers d'Île-de-France pour qu'ils se passent le mot et pour qu'ils partent, pour que le lendemain, quand les policiers arrivent, ils ne soient plus chez eux et donc ils ne soient plus appréhendés. Et ensuite, je lis dans l'ouvrage de Madame Limor Yagil, historienne israélienne, je lis ceci, donc selon le SS, alors Obersturm, Führer, Heinz Röpke, citation, c'est grâce à l'aide apportée aux Juifs à Paris par des fonctionnaires de la police française que dans plusieurs cas, ceux-ci avaient pu quitter les lieux avant l'arrivée de la police. Et de mémoire, dans le bouquin de Laurent Joly, qui s'appelle « L'État contre les Juifs », il évoque la différence qu'il y a entre les commissariats. Donc effectivement, il y a des policiers qui ont fait semblant de faire leur boulot ou qui ont averti à l'avance de l'imminence des rafles, qui fait que des Juifs étrangers ont pu partir et du coup ne pas être raflés et déportés ensuite. Alors Jean-Marc Berlière, dans son ouvrage collectif qui s'appelle « Histoire d'une falsification », Vichy et Lachoix dans l'histoire officielle et les discours commémoratifs, nous prend l'exemple de ce qui s'est passé à Nancy. Nancy, avant que Laval intervienne, donc les Allemands avaient prévu d'y rafler 350 juifs. Laval intervient, il empêche la déportation des juifs français. Et combien les Allemands raflent-ils de juifs? 33. 33. C'est le cas à Bordeaux également. À Bordeaux, on a annulé un convoi à cause de l'intervention de Pierre Laval. Voilà. Donc, je répète et je synthétise le tout. Les Allemands voulaient déporter des Juifs français et des Juifs étrangers. Et Laval est intervenu pour que les Juifs français ne soient pas déportés. Donc, il a empêché la rafle et la déportation de Juifs français, ni plus ni moins. J'ai peut-être une petite citation à vous faire à ce sujet. Est-ce que je vais la trouver? Non, je ne vais pas la trouver, c'est pas grave. Les lecteurs, eux, la trouveront. Voilà. Alors, ensuite, en zone sud, le régime de Vichy va entre guillemets livrer. Je dis entre guillemets pourquoi? Parce que, je le répète, ça a été fait sous la contrainte. Les 10 000, un peu plus de 10 000 juifs étrangers aux Allemands qui seront ensuite donc déportés. Pourquoi le gouvernement a-t-il fait cela? Bousquet s'en explique à son procès. Il nous explique qu'au titre d'un article de la Convention d'amitié, que je n'ai plus, le gouvernement français avait l'obligation de remettre au Reich les ressortissants, ses ressortissants, donc des Juifs allemands, autrichiens, polonais, tchèques, etc. Le gouvernement n'avait pas le choix selon la Convention d'armistice. Voilà. Et Bousquet rajoute que les Allemands ont menacé de déporter des Juifs français si le gouvernement traînait des pieds. Donc ces déportations, ces livraisons, entre guillemets, ont été faites sous la contrainte. On n'a pas demandé son avis au gouvernement. On ne lui a pas demandé son avis. Voilà. Donc nous dire que le gouvernement s'est réjoui de faire ça, c'est un pur mensonge historique. C'est un mensonge. Voilà. Et donc cette émission est une vaste réfutation contre le mensonge. Donc il y a eu 10 000 juifs des camps d'internement qui sont livrés. Mais rappelez-vous, si Vichy n'avait pas préalablement vidé les camps d'internement, il y en aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Vous n'entendrez pas ça sur Arte. Ensuite, j'arrive au mois de septembre 1942, et là, Vichy, Laval principalement, va ni plus ni moins empêcher une rafle et les déportations qui s'en suivent. Avez-vous déjà entendu quelque part, chers amis, que Vichy avait empêché une rafle et les déportations? C'est pourtant ce qui s'est passé. Début septembre, les Allemands veulent faire une nouvelle rafle. Laval va s'y opposer. Comment va-t-il faire? Il va être roublard. D'abord, il va opposer aux Allemands qu'il ne faut pas le faire, puisque l'opinion publique y est très fortement hostile, puisque à l'été 42, les évêques de France, c'est les évêques de France qui ont gueulé à l'époque, c'est pas les communistes, etc. Hein, d'ailleurs, on a une phrase de Madame Jagil qui nous évoque que la résistance ne s'est absolument pas souciée de la question juive pendant la guerre. Hein. Donc ce sont les évêques de France qui ont protesté contre ces déportations. Donc Laval nous dit, écoutez, on va avoir davantage l'opinion contre nous, ne faites pas ça. Mais il en faut plus, chers amis, vous savez bien, pour émouvoir les Allemands. Hein. Et d'ailleurs, est-ce que je vais retrouver une citation de Pie XII? Je rappelle que Pie XII avait déclaré ceci, voilà, le 24 décembre 1942, Pie XII déclare ceci dans un discours radiophonique. Il dénonce les centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute de leur part, quelquefois seulement pour raison de nationalité ou de race, sont vouées à la mort ou à un dépérissement progressif. Donc je répète que Pie XII, le 24 décembre 1942, nous parle des centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute de leur part, quelquefois seulement pour raison de nationalité ou de race, sont vouées à la mort ou à un dépérissement progressif. Je rappelle qu'à Auschwitz, il y avait aussi des catholiques. Et je rappelle, en passant, que 3 millions de catholiques polonais civils sont morts pendant la guerre. Il y a eu aussi un génocide catholique, chers amis. Quand je vois des catholiques qui se revendiquent du national-socialisme, Dieu merci, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est une aberration, indépendamment du fait que le national-socialisme a été condamné par l'Église. C'est quasiment le régime qui a tué le plus de catholiques, avec l'URSS. Bon, bref. Voilà. Donc, que fait Laval pour empêcher la rafle de septembre 62? D'abord, il joue la carte de l'opinion publique. Et ensuite, il va réussir à se moquer des Allemands, en quelque sorte. Puisqu'il va leur dire ceci. Écoutez. Vous ne déportez pas de juifs pour l'instant, et en contrepartie, je m'engage à faire une loi qui va dénaturaliser les juifs français. Donc, les intéressés ne seront plus français, et donc, à ce moment-là, vous pourrez les déporter. Donc, je vous demande pour l'instant de ne pas faire de rafle, pour des raisons d'opinion publique, et parce que nous allons faire une loi qui va dénaturaliser des juifs français, qui les rendra déportables. Et les Allemands vont accepter. Mais ce que les Allemands ne savent pas, c'est qu'ils vont être menés par le bout du nez par Pétain et Laval, qui n'ont aucune intention de prendre cette loi. Et on reviendra sur ce dossier dans quelques instants, puisqu'on reparlera de ça à l'été 43. Citation de Pierre Laval, après ces événements, donc quelques jours après ces événements, où il a promis cette loi. Citation de Pierre Laval dans un discours devant les préfets de la zone libre. Discours du 25 septembre 1942. 42. Que dit Laval au préfet de la zone libre? Accrochez-vous, chers amis. Il y a 3 ou 4 jours, nous avons été informés que nous devions remettre à Paris 8000 juifs français pour les faire partir en Allemagne. Bousquet a protesté. Aucun juif n'a été livré. Je vous demande de ne pas faire d'antisémitisme. Qui c'est ça, chers amis? Donc Vichy, en septembre 42, a empêché une rafle et les déportations qui auraient mécaniquement découlé. Tels sont les faits. Mais les Allemands vont poursuivre par eux-mêmes les déportations. Et notamment, la police allemande va rafler des juifs en janvier 43 à Lyon et à Marseille. Mais poursuivons, chers amis. Il va aussi y avoir des rafles dans la région parisienne. Pourquoi ? À cause des communistes, en tout cas des terroristes. Pourquoi ? Parce que en février 43, deux policiers vont être abattus à Paris. En représailles, les Allemands vont vouloir déporter 2000 juifs français. 2000 juifs français. Et là, Bousquet intervient en disant non, ne déportez pas de juifs français, nous allons appréhender des juifs étrangers, et comme ça, vous ne touchez pas aux juifs français. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. C'est-à-dire que le gouvernement, effectivement, c'est vrai, a priorisé les Français sur les immigrés. Voilà. Mais rappelons-nous de la responsabilité des terroristes, dont il y a de grandes chances qu'ils soient communistes, parce que je vous renvoie à l'émission précédente sur tous les attentats communistes commis pendant la guerre. Donc, les rafles continuent en 1943, chers amis. Et nous arrivons au début d'été 1943, et là, les Allemands reviennent toquer à la porte du gouvernement français en disant « Eh, au fait, en septembre 1942, là, vous ne nous aviez pas promis une loi qui permettait de dénaturaliser les Juifs afin qu'on puisse, nous, ensuite, les déporter ?» Effectivement, le gouvernement a sans cesse repoussé cette loi. Mais que va-t-il se passer ? Laval et Pétain vont mettre leur veto et ils vont mettre tous les projets de loi à la poubelle. Ce qui fait que cette loi n'aura jamais lieu et que les déportations prévues par les Allemands à l'été 43 n'auront, sur la base de cette loi, n'auront pas lieu. Et cette rafle était qualifiée par Asher Cohen de rafle monstre. Donc Vichy a empêché une rafle monstre. Ça aussi, on ne l'entend pas sur Arte et chez Ruquier et chez Salamé. Hein. Citation de Asher Cohen. Le plan d'une grande rafle, il s'agissait surtout de Paris, fut alors lié à ce projet de loi. La date prévue fut plusieurs fois fixée et reportée au 15, puis au 23 juillet, enfin au 9 août. Plus tard, ce seront les nécessités de délibérer au Conseil des ministres, puis le refus de Pétain, qui mettront un point final au projet. Donc Laval et Pétain, en enterrant ce projet de loi qu'ils avaient initialement promis pour empêcher une rafle en septembre 1942, eh bien Laval et Pétain ont empêché la tenue d'une rafle et des déportations mécaniques qui auraient suivi. Et derrière, M. Laurent Joly va sur France Culture et nous dit que la politique de Vichy, c'était de livrer un maximum de juifs. D'ailleurs, restons sur ce M. Laurent Joly. De mémoire, c'est dans un ouvrage collectif qui s'appelle « Le fantôme de Philippe Pétain », où Laurent Joly dit ceci. « Je reconnais qu'à l'été 43, Vichy a empêché une rafle. Mais pourquoi l'ont-ils empêché en 43 et ne l'ont-ils pas empêché à l'été 42 quand, en zone libre, les Allemands sont venus chercher 10 000 juifs étrangers ?» Je réponds, les situations n'avaient rien à voir. Parce que les juifs étrangers que les Allemands ont appréhendés à l'été 42, le régime de Vichy n'avait aucun levier administratif pour s'y opposer, puisque je répète que la convention d'armistice, implicitement approuvée par l'Assemblée nationale de la Troisième République d'ailleurs, imposait que les ressortissants du Reich soient remis au Reich à sa demande. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les Allemands, à ce moment-là, ont activé un levier juridique de l'armistice. En 1943, ils n'avaient pas ce levier-là. C'est pourquoi Pétain et Laval avaient une marge de manœuvre plus grande. Donc Laurent Joly fait un sophisme. Il compare deux situations qui étaient différentes. Et de fait, je répète qu'en septembre 1942 et à l'été 1943, le gouvernement de Vichy a empêché des rafles et les déportations qui aurait dû suivre mécaniquement ces rafles. Voilà. Donc, si on fait le bilan de tout ça, donc, sans oublier que le gouvernement, suite à l'activation du levier administratif de l'armistice, a été contraint, à l'été 42, effectivement, de laisser les Allemands appréhender plus de 10 000 juifs, ne perdons pas de vue ceci. Vichy a obtenu la libération de 850 juifs arrêtés lors des rafles allemandes de 1941. Vichy a vidé les camps d'internement de 1941 à l'été 1942, ce qui réduira d'autant le réservoir de déportation. Réservoir entre guillemets, vous avez compris. Vichy a empêché la rafle et la déportation de juifs français en juillet 1942, pendant le moment du Veldiv. Vichy a empêché une rafle et la déportation qui aurait suivi fin septembre 1942. Vichy a empêché une rafle et la déportation qui aurait suivi en juillet-août 1943. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, plusieurs historiens affirment que ce que vous voyez là, notamment, que Vichy a contribué à sauver des Juifs. Voilà, donc je vais citer à ce sujet Raoul Hilberg tout à l'heure, je vais citer Léon Poliakov. Et tout ça, ce sont des ouvrages qui sont en vente en plein commerce et qui font autorité dans le monde académique. Voilà. Je ne suis pas du tout exhaustif sur la question, je m'en excuse. Il y a des milliards de choses à dire. Et ce soir, je ne vous ai pas beaucoup parlé de Xavier Vallat et du commissariat aux questions juives. Peut-être qu'un jour, chers amis, je vous ferai une émission sur Xavier Vallat, qui, à sa façon, non, qui est un héros français tout court. Voilà. J'en ai fini. Puis, entièrement, y a-t-il des questions intelligentes? Mais si on n'a pas, on ne fait pas de zèle. Hein.
Le cardinal de Tussy demandait combien de temps aurait pu-t-il tenir sans mettre en vigueur cette loi de dénaturalisation si la guerre avait donné plus de temps au Troisième Reich.
Je ne sais pas combien de temps ils pouvaient tenir, j'en ai aucune idée. J'ai pas le cristal. En tout état de cause, ils ont tenu longtemps, ils ont mené les Allemands par le bout du nez et ils ont empêché sciemment la tenue d'une rafle. Voilà. Et le nier, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle invraisemblable. Mais de toute façon, on nous oppose une malhonnêteté intellectuelle invraisemblable et des sophismes grossiers. Voilà. Et les faits sont là pour réfuter les légendes. Tout simplement.
Sotuitou dit beaucoup de juifs étaient communistes et beaucoup d'entre eux ont été déportés car communistes et non juifs. Donc les chiffres que vous citez.
Il y a eu des militants surtout communistes de juifs d'Europe de l'Est, mais en France, je ne suis pas spécialement convaincu que les juifs de France de l'époque étaient particulièrement. Bon, il y avait des socialistes hein, du côté de l'Embloum et tout ça, mais bon, je ne sais pas ce que ça représentait vraiment dans l'opinion, très sincèrement.
Sinon, les. Ah, peut-être notre question.
Et vous savez, hein, au passage, pour les judéo-centrés, tous les communistes. Tous les gauchistes, tous les socialistes qui, pendant la guerre d'Espagne, ont massacré 7000 prêtres religieux. Hein. Je répète que la guerre d'Espagne, c'était une guerre de religion. Bah, les intéressés, ils n'étaient pas juifs. Hein. Excusez-nous. Hein. Voilà. Donc, je vous renvoie, chers amis, à la vidéo qu'on a faite sur la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne était une guerre de religion. Et je rappelle qu'avant que le coup d'État de Franco ait lieu à l'été 36, du dernier résultat des élections législatives qui donne la majorité à la gauche au début du coup d'État, près de 200 prêtres sont assassinés. Et parfois dans des conditions ignominieuses. C'était les Charlie Kirk de l'époque. Alors, je ne les place pas sur le même plan, puisque Charlie Kirk n'était pas catholique, n'était pas un prêtre, mais c'est l'idée. La gauche tue. La gauche tue ceux qui ne sont pas d'accord avec eux quand elle ne peut pas tuer physiquement. Elle tue socialement avec la technique de la diabolisation. Voilà.
Tu s'y demandes encore. La Troisième République ayant rempli les camps, s'il n'était pas tombé, y aurait-il eu un effroyable carnage?
Si Vichy n'avait pas vidé les camps, à l'été 1942, ce n'est pas 10 000 ou entre 10 et 15 000 juifs qui auraient été appréhendés, ça aurait été 30, 40, 50. Donc le nombre de morts était beaucoup plus grand. Asher Cohen nous le dit explicitement, mais même s'il ne le disait pas, on peut arriver par notre cerveau à cette simple conclusion qui est évidente. Évidente.
J'ai perdu la question, mais qui en gros de Sotuitou disait, est-ce que vous supprimeriez, interdiriez les ouvrages et documents que vous considérez comme faux, mensongers, si vous étiez au pouvoir?
Ça dépend des sujets, mais le mal n'a aucun droit. Le faux d'un cadre. En tout cas, au pouvoir, toutes les attaques contre l'Église catholique seraient interdites.
Voilà. Là, je pense que tu parlais des sujets, d'histoire, mais...
Non, parce que l'histoire, si vous voulez, naît du contradictoire aussi. Vous voyez? Le contradictoire, c'est très important. Vous voyez qu'avec les historiens de Dreyfusard, avec lesquels je ne suis pas d'accord, on s'oppose des arguments respectifs. Et le contradictoire m'a aidé à progresser, m'a aidé à peaufiner mon argumentation. Et quand je faisais parfois moi-même des petites erreurs factuelles, j'ai pu les corriger. Vous voyez? Donc on a besoin du contradictoire. Donc il ne faut pas de dogme en cette matière-là. Le dogme, c'est pour le dogme. C'est pas pour les sciences humaines, si je puis dire.
Nous avons un don de 6 euros de Julien Thiollet.
Merci, cher ami.
Vichy pouvait-il refuser les recensements de juifs ayant facilité les déportations? Et d'autres questions, pensez-vous de Darquet de Pellepoix?
Les recensements qui ont été faits par Vichy ont été mis sous le boisseau. Bousquet en parle, hein, d'ailleurs, dans son procès, et en fait, il nous explique que les Allemands ne les ont pas eus, hein, c'est les résultats des recensements. Par contre, il y a eu un fichier qui avait été fait par la police, qui s'appelait le fichier Tular, je crois, qui était déjà utilisé et qui était plus ou moins l'équivalent d'un recensement. C'était quoi le reste de la question ?
Ton avis sur Darquet de Pellepoix ?
Je ne connais pas très très bien le dossier à fond, mais il n'est absolument pas comparable à Xavier Vallat. C'est-à-dire que Xavier Vallat, lui, a opposé une action de résistance à sa façon, et il a défendu le magistère de l'Église, puisqu'il voulait faire un statut des Juifs qui soit compatible avec le magistère de l'Église, ce qui n'était pas totalement vrai d'ailleurs. Puisque dans le statut des Juifs, les Juifs convertis au catholicisme étaient encore considérés comme Juifs. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible d'un point de vue catholique, parce que le baptême est une régénération. Donc si vous les considérez encore comme Juifs, c'est-à-dire que vous niez les fruits de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Voilà. C'était quoi la question déjà ? C'était donc Darquier. Darquier, lui, c'était un personnage vraiment de second ordre qui est incomparable par rapport à Xavier Vallat. Et d'ailleurs, qui a été le successeur de Darquier, qui d'ailleurs n'était pas très estimé par les Allemands ? Qui était le successeur de Darquier ? C'était un descendant du colonel Dupaty de Clam. Dupaty de Clam, qui a joué un rôle très important pendant l'affaire Dreyfus. Mais de l'avis général, il a strictement rien fait au commissariat général des questions juives. Et en gros, il a laissé le juif tranquille, quoi. Je vous la fais simple. Voilà. Donc, sous ceux qui voulaient un surcroît de diabolisation de la famille Dupaty de Clam, eh ben, c'est manqué. Et je rends hommage au colonel Dupaty de Clam, qui, lorsqu'a éclaté la guerre de 14, était retraité. Il a demandé à être mobilisé, il a été mobilisé, et on lui proposait des postes à l'arrière. Il a refusé. Il est allé sur le front, il a combattu en première ligne, de façon très courageuse, et il est mort des blessures qu'il a récoltées au front. Voilà les personnes que la République vous demande de mépriser, chers amis.
Merci à Zinzel qui fait un don de 3 euros. Il n'aurait pas de questions, mais il a dit
beaucoup bien de l'émission. On invite aussi les gens à financer un maximum la radio, oui. Car, chers amis, nous ne vivons pas d'amour et d'eau fraîche. Hein.
C'est un fidèle qui te connaît depuis Meta TV.
Ah ben, monsieur est un vrai. Et d'ailleurs, il faut profiter de cette émission, chers amis, pour rendre hommage à la mémoire de notre ami Patrick, qui nous a quittés il y a déjà 6 ans, chers amis, et il nous manque énormément. Il nous manque énormément. Humainement déjà, parce que c'était quelqu'un vraiment de très gentil. Et il manque à la cause française. Et Patrick il nous aurait donné un sacré coup de main pour lutter, par exemple, contre la tyrannie sanitaire à l'époque. Et moi, j'ai un immense regret dans ma vie, de ne pas avoir pu faire des missions de défense de la foi chez lui. Ça, chers amis, je le regrette tellement, mais à l'époque, j'avais pas assez travaillé le dossier. Donc moi, je plaide que les dossiers que j'ai assez bossé et que je peux plaider pièce à l'appui. C'est un immense regret que j'ai. Bon, c'est comme ça. Bon Dieu a permis, comme on dit, donc on s'incline. Bon, vous me direz, on l'a défendu ici, mais chez Patrick, ça aurait eu un retentissement assez important et ça aurait peut-être permis de toucher d'autres publics et peut-être que ça aurait permis de faire d'autres conversions. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
Combien d'abonnés avait-il à l'époque ?
Je sais pas, mais je vous donne un exemple très simple. Mon émission que j'ai faite pour mon livre « La France vivait contre elle-même » dépassait les 100 000 vues et avant que la chaîne saute, continue de monter. Là, j'avais fait une émission chez Patrick très importante sur l'affaire Dreyfus, chers amis, où je développais l'affaire pièce en main pendant 2 heures. C'était la première fois depuis des siècles qu'on disait à cette échelle la vérité sur l'affaire Dreyfus. On avait dépassé les 70 000 vues et l'émission ne cessait d'engranger des vues. Vous voyez ? Donc Patrick avait une énorme force de frappe. Voilà. Donc, cette disparition est un coup dur pour la cause. Et je pense souvent à lui et je prie pour le repos de son âme. Il n'est pas que ceux qui sont au purgatoire en ce moment. Donc, je prie pour le repos de son âme. Voilà.
Et Jean-Marc Becquet demande ce que tu penses de Monseigneur Mayol de Luppé.
Alors, je crois que c'était quelqu'un qui était pro Troisième Reich.
Ouais.
Je pense qu'il s'est autant trompé que tous les clercs catholiques qui se disaient, vous savez, prêtres ouvriers, pro-communistes, etc. Voilà. Le national-socialisme a été condamné par l'Église. Il y a même une allocution de Pie XII dans laquelle Pie XII dit que le national-socialisme est une apostasie orgueilleuse. Une apostasie orgueilleuse, chers amis. Alors, des catholiques se disent plus compétents que Pie XII pour juger de ce qui est vrai ou faux en matière de foi et de mœurs, curieux catholiques. Moi, je ne suis pas plus compétent que Pie XII, chers amis. Pie XI et Pie XII ont condamné le national-socialisme. Tels sont les faits. Et quand je dis ça à quelqu'un qui se revendique du national-socialisme et catholique, il se comporte comme un moderniste. « Ah mais non, mais il n'a pas vraiment voulu dire ça. C'est pas vraiment ça qu'il a dit. C'est pas vraiment ça qu'il a visé. » Ah bon, il a visé qui alors? Les Brésiliens, les Égyptiens? Quel régime a été condamné? Excusez-moi, je veux... Bref. Bref, voilà. Donc, quand on est catholique, on s'incline devant le magistère de l'Église. Donc le national-socialisme, c'est poubelle. Voilà, c'est pas compliqué. C'est comme le communisme. Poubelle. On n'en parle plus. Et il y a aussi un texte de Pie XI, d'ailleurs, contre le fascisme, en passant. Hein. Donc, j'ai oublié le nom, pardonnez-moi.
Tricatelle demande si tu n'as pas peur d'un procès.
Non, j'ai pas peur d'un procès. Parce que je dis la vérité. Voilà. Et si par extraordinaire il y avait un procès, achetez votre place, chers amis. Parce qu'on va pas s'ennuyer. Achetez votre place. Et je viendrai avec mes ouvrages et je dirai, écoutez, vous savez, c'est comme notre Seigneur. Quand il passe devant le Sanhédrin, à un moment donné, il se fait gifler, je crois, il se prend un coup. Et il dit cette phrase. Si je dis la vérité, pourquoi me frappez-vous? Si je dis la vérité, pourquoi me frappez-vous? Eh bien, je reprendrai cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ, en remontrant tous mes bouquins, vous voyez, et en disant à mes accusateurs, mais si je dis la vérité, pourquoi me frappez-vous? Voilà. Donc achetez votre place, si par extraordinaire il y a un procès, ça sera historique. Et on en fera un bon bouquin. Voilà.
Ben c'est tout.
Eh bien, merci, chers amis. Vous avez vu qu'on a fait beaucoup d'émissions pour parler de mon dernier bouquin, mais qui, je pense, est un missile contre le mensonge. Et comme nous sommes, comme les esprits sont colonisés par le mensonge, ben, il y a du boulot, quoi. Voilà. Donc, on a fait un paquet d'émissions là-dessus. On en fera d'autres probablement, d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a beaucoup de vérités à restaurer et beaucoup d'individus dont il faut restaurer la réputation. Voilà. Par exemple, j'aimerais bien vous parler un jour de Yves Boutillier. J'aimerais bien vous parler de Pierre Pucheux. Voilà. Un peu plus en détail. Et là, vous voyez que vraiment le mensonge de l'histoire institutionnelle s'effrite, mais en 3 secondes et demie. Quoi. Merci de votre patience. Et je vous demande, chers amis, je vous demande, à vous qui êtes au contact de cette vérité, de la diffuser un maximum. Vous avez la responsabilité de diffuser la vérité sur ce sujet, comme sur les questions en matière de foi. Voilà. C'est un combat collectif, oui, c'est comme au rugby. Hein. Quand il y a un regroupement, on ne peut pas pousser le regroupement adverse tout seul. On est tous ensemble pour pousser. C'est comme dans la mêlée, on pousse tout ensemble. Voilà. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un micro et de pouvoir dire la vérité, mais vous, au quotidien, concrètement, vous devez défendre cette vérité. Et si c'est possible, relayer les émissions. Parce que les gens sont tétanisés à l'idée de relayer. Non, mais attendez. Moi, j'ai fait plus de 150 émissions. Je dors dans mon lit. Hein. Je dors pas sous les ponts. J'ai pas de tueur à gage contre moi. Relayez la vérité. Et on passe notre vie à avoir des trolls qui nous disent qu'on est des baltringues. Mais vous, trolls, vous n'êtes même pas capable de relayer. Vous êtes planqué sous pseudo. Non, mais attendez. Attendez. Voilà, donc diffusez la vérité, chers amis. Voilà. J'en ai terminé. On se retrouve dans 2 semaines. Normalement, ce sera sur une émission qui n'a rien à voir. On va peut-être parler d'un clerc français qui avait beaucoup de bien, beaucoup, beaucoup de bien aux âmes, qui l'a converti. Loin d'ici, j'en dis pas plus. Et si par extraordinaire Prévost nous pond un torchon qu'il ose qualifier d'encyclique, comme dirait un clerc que je connais, une encyclaque, n'est-ce pas ? Eh bien, nous la détricoterons. Voilà. Je remercie Pierre Thiermont qui était à la technique. Et chers amis, le combat pour la vérité continue. À bientôt.